Bien, nous sommes contents d'être avec vous ce matin. On se rappelait hier, en fait la dernière fois qu'on est venu, on s'est retrouvé avec Pascal et Jackie le samedi et quelqu'un nous a appelé dans la soirée pour dire « Est-ce que vous avez regardé les infos ?» Demain, les cultes sont interdits. Alors, donc, on ne s'est pas vu avec les autres. On a été privé de ce moment. Et puis, on ne va pas revenir sur toute la séquence qui s'est passée depuis, mais effectivement, ça a été éprouvant pour chacun. Et nous le savons. Mais nous sommes vraiment heureux de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. Je voulais aussi vous dire merci pour votre contribution au livre que ma famille avait mis ensemble pour mes 70 ans. Merci pour ce que vous avez fait, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, je voulais vous le dire ce matin. Notre texte aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 6. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez ouvrir déjà à Ésaïe 6, et on va le lire en trois fois, en trois parties, mais d'abord une petite introduction. Ça commence par l'année de la mort du roi Ozias, ce qui nous place vers 740 avant Jésus-Christ, donc c'est il y a très longtemps. Le roi Ozias est mort, et il est écrit quand même à son sujet, « Il fit ce que l'Éternel considère comme juste ». Le royaume de Juda a eu des rois, certains très bons, certains très mauvais, certains un peu médiocres, mais Ozias, il est dit de lui dans le livre de deux rois, il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Mais pour les habitants du royaume de Juda, chaque changement de souverain était évidemment un moment, on pourrait dire, de flottement, de questionnement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On avait un bon roi. Le successeur sera-t-il à la hauteur? Peut-être certains se demandaient, est-ce qu'il va encore augmenter les impôts? C'est une question très pratique qui vient souvent à l'esprit. Mais pour Ésaïe, je pense que la question la plus importante, c'était de savoir si le nouveau roi allait tirer le peuple vers le haut ou vers le bas, dans sa relation à l'Éternel. Et j'imagine que ça le travaillait. Et c'est dans ces circonstances que le Seigneur accorde donc à son prophète une vision bouleversante, comme on va le rappeler en lisant le texte, mais une vision bouleversante. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « Nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Et c'est un principe biblique, c'est répété plusieurs fois dans la Bible, que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est quelque chose de trop fort pour l'humain. Mais après avoir dit donc à Moïse, nul homme ne peut me voir et demeurer en vie, le Seigneur lui permet quand même de voir quelque chose de sa gloire. Il est question de le voir de dos, une vision partielle qui a été quand même donnée à Moïse. Et Ésaïe, à son tour, fera partie des privilégiés qui ont eu droit à un aperçu, une vision de Dieu, limitée encore, partielle, une vision de sa gloire, une vision qui sera, même si elle est limitée, elle sera à la limite du supportable pour Ésaïe. Alors j'ai parlé de privilégiés et je pense que le mot est juste, mais il faut préciser que le privilège a un prix. Alors nous allons lire ce récit, et quand on lit ce qui s'est passé, ça nous donne du recul. Nous ne sommes pas dedans, mais Ésaïe l'a vécu. Et j'aimerais quand même qu'on garde ça à l'esprit. Ésaïe a pleinement vécu ce que nous allons lire ce matin, et il s'est retrouvé liquéfié, écrasé par cette gloire. Il est passé par un moment, on pourrait dire, même très difficile. Alors essayons de comprendre ce qui lui arrive pour notre instruction. Alors, je reprécise qu'il s'agit d'une vision, Isaïe ne pouvait pas être dans le lieu saint ou dans le lieu très, très saint du temple puisqu'il n'était pas sacrificateur. Donc il était comme les autres, limité au parvis. Mais le Seigneur, dans cette vision, le transporte dans sa présence et lui permet de voir quelque chose donc de très fort. Et puis l'autre chose qu'il est intéressant de noter tout de suite, parce que ça va être le fil conducteur du message, c'est une expérience très sensorielle. Et donc nous allons nous arrêter sur ce qu'Ésaïe voit, ce qu'Ésaïe sent et ce qu'Ésaïe entend. Voilà, c'est un plan très simple, mais c'est comme ça que le texte se goupille, on pourrait dire. Et donc nous allons lire la première partie des versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout, chacun d'eux avec 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi ! Je suis perdu, car j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Donc, ce qu'Ésaïe voit. Et tout de suite, je vis le Seigneur. Voilà ce qu'il nous dit. Dieu se révèle à son prophète sous l'apparence d'un roi sur son trône, entouré de sa cour, prêt à rendre justice. Et Ésaïe découvre donc un Dieu terrible, un Dieu qui va le faire trembler. Et puis il entend ce mot. Alors c'est un mot énorme, mais je pense que souvent nous le prononçons à la légère. C'est le mot saint. C'est le mot qu'il va entendre. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. Sa gloire est ce qui remplit toute la terre. Et la sainteté est la grande information essentielle qui nous est donnée au sujet de Dieu. C'est, on pourrait dire, le cœur de la révélation de Dieu, c'est que Dieu est saint. Sa sainteté éclate. Et dans ce texte, évidemment, c'est ce qui est souligné. Revoyons donc les différentes choses qu'on peut apprendre du texte d'Ésaïe 6 au sujet de la sainteté de Dieu. D'abord, il en ressort que cette sainteté est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, mais je souligne, en dehors du commun, c'est quelque chose qui n'est pas comparable à autre chose. Alors ça nous semble peut-être une évidence, mais regardons de plus près comment la vision décrit cette sainteté. Nous pouvons supposer que ces êtres, alors parfois appelés les séraphins, c'est le mot hébreu, ici la Bible du Semeur traduit par des êtres à forme de serpent, de serpent volant, ces êtres vivaient dans la présence de Dieu. Je pense donc être dans le vrai si je dis que c'était des êtres sans péché. Ceux qui vivent dans la présence du Dieu saint, les anges, les séraphins, les chérubins, sont des êtres sans péché. Et pourtant, il faut comprendre ici que la sainteté va bien au-delà du fait d'être sans péché. Car ces êtres se couvrent le visage et se voilent le corps devant la sainteté de Dieu. Ils ne sont pas à l'aise, on pourrait dire. Ils sont frappés. toujours et encore, puisqu'ils vivent dans la vision de cette sainteté, mais ils ne s'y habituent pas. Et si nul être humain ne peut voir l'Éternel et vivre, on pourrait peut-être dire qu'il est aussi vrai que nul ange ne peut supporter la vision de sa gloire sans protection. Ces êtres se protègent. La sainteté n'est donc pas simplement la pureté à la puissance 10, ni même à la puissance 100 ou à la puissance 1000. Nous ne connaissons rien qui soit comparable à la sainteté de notre Dieu. Cela nous est donné, comme un fait essentiel, mais nous n'avons pas de référence ailleurs pour dire, voilà, la sainteté de Dieu, c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Elle est dans une classe à part. Et l'homme naturel ne peut même pas l'imaginer. Et ici, elle dépasse même les séraphins. Ils en parlent. Et ça, c'est déjà leur privilège et leur ministère, on pourrait dire, leur service. Ils en parlent, mais encore une fois, ils s'en protègent. En même temps, pour ces êtres célestes, la sainteté de Dieu est enthousiasmante. Elle les fait vibrer. Elle les fait chanter. Et les auteurs bibliques n'avaient pas dans leur langue de point d'exclamation, ni même de majuscule pour souligner les choses. Donc ils utilisaient la technique de la répétition. Et c'est pour ça que saint, 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 en fait c'est un superlatif. C'est qu'il est le plus saint. Et le seul qui soit aussi saint. Et ces paroles répétées, en fait, il faut les comprendre comme des allers et retours de louanges entre ces êtres. Ils se répondent l'un à l'autre, saint, saint, saint et l'Éternel. Je pense qu'on peut aller plus loin et dire même qu'ils sont ravis de proclamer sans fin la sainteté du grand roi. Ça semble être même leur raison d'être. Ils sont là pour dire continuellement la sainteté de Dieu et ils s'en donnent à cœur joie dans cette occupation. Et là, je pense à moi-même, je pense à nous, et je me dis, si seulement leur enthousiasme et leur joie devant la sainteté de Dieu pouvaient être contagieux pour nous. On parle beaucoup de contagion en ce moment, mais ça serait une bonne contagion, une louange virale. C'est un virus qui nous ferait du bien. Que le Seigneur nous aide aussi à rentrer dans cette réponse à sa sainteté qui ne peut être que la louange, que l'adoration devant lui. Mais ces êtres, donc ces séraphins, nous disent aussi que la sainteté de Dieu est active. Sa gloire est ce qui remplit toute la terre. Alors, la gloire et la sainteté, juste pour préciser, on peut dire que la gloire, c'est ce qui habille la sainteté, ou ce qui manifeste ou rend visible la sainteté. Donc, pour voir la sainteté, en fait, on voit la gloire. Alors, il y a une petite hésitation là sur le temps du verbe. Est-ce que le verbe rempli est au présent? En fait, si c'est le cas, il faut dire que cette gloire remplit donc déjà la terre. Et on peut donc la discerner dans les œuvres de Dieu, dans son salut. Il est possible que ce soit aussi un futur. Mais ça voudrait dire de toute façon qu'un jour, la terre entière sera envahi par la gloire de Dieu. La sainteté va s'imposer à la fin. Elle n'est pas donc une qualité douce ou dormante. Elle éclatera partout. Et ça a été aussi annoncé par Habacuc, le prophète. Vous connaissez ce verset, vous l'avez peut-être chanté. La terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et puis, il y a un dernier point par rapport à cette sainteté, mais qui est plutôt dans la réaction d'Ésaïe. Et la réaction d'Ésaïe souligne à quel point la sainteté de Dieu peut être alarmante. Il est confondu devant la sainteté de Dieu. Et il dit, malheur à moi, c'est une chose terrible qui m'arrive. Je suis détruit. Je suis fichu. Je suis perdu. Parce que le prophète sent en ce moment-là qu'il est lui-même tout le contraire de son Dieu, de cet éternel trois fois saint. Il est impur. La sainteté le fait trembler. Et il s'inquiète. Il s'inquiète à cause de ses lèvres, il s'inquiète à cause de ses yeux qui ont vu cette gloire. Il était déjà quelqu'un qui essayait d'annoncer la parole de Dieu, mais comment annoncer la parole du Seigneur avec des lèvres impures, avec des lèvres souillées? Ésaïe, en fait, se sent pris un peu dans un problème pour lui. Mais est-ce que je peux continuer à servir vu l'impureté qui me caractérise? Annoncer la parole de Dieu avec ses lèvres souillées, ça serait peut-être un peu comme vouloir être chanteur d'opéra alors qu'on a subi une trachéotomie. Hein, c'est comment faire? C'est pas possible. Mais encore, comment même oser mêler sa voix aux êtres dans le ciel qui louent le Seigneur? Son impureté entrave donc pour lui son service et aussi son adoration. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que pouvons-nous en retirer pour nous? Le Dieu trois fois saint a en fait fait un cadeau à Ésaïe ce jour-là. Alors, vous voyez peut-être pas tout de suite le cadeau, mais je pense qu'il veut nous faire le même cadeau. Il veut nous inspirer, comme il a inspiré à Ésaïe, une conscience grandissante, irrésistible, de notre état réel. Et c'est un état comme l'état d'Ésaïe. Au naturel, je suis tout aussi corrompu que Ésaïe a pu se sentir ce jour-là. Combien aussi mon cœur est tortueux et perfide et retors. Et tout ce que nous disons, faisons et pensons est entaché de péché à un degré ou à un autre. Et pourtant, le Seigneur ne veut pas décourager Ésaïe de servir. C'est ça qui est beau dans ce texte. Et il ne veut pas nous décourager non plus, ni de servir, ni de le louer. Mais ce qui nous fait comprendre à travers l'expérience d'Ésaïe, c'est qu'il veut s'occuper du serviteur avant de parler du service qu'il attend de chacun de nous. Il s'occupe de moi, il veut s'occuper de toi, de chacun, avant de dire « voilà ce que tu peux faire pour moi, voilà où je vois un service pour toi ». Donc, quelle que soit la forme de service à laquelle Dieu nous destine, et il a quelque chose pour chacun, il commence par s'occuper de nos lèvres impures, qui sont ici l'image de toute l'impureté qui peut exister dans l'être humain. Quelque part, le Seigneur nous invite à mesurer d'abord notre misère pour voir notre besoin de lui, notre dépendance vis-à-vis de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu ça aussi que Ésaïe va découvrir. Sans l'intervention du Seigneur, Ésaïe est effectivement perdu. Donc le Seigneur nous invite à mesurer notre besoin de lui avant de nous engager avec lui. Je reprends la lecture, donc les versets 6 et 7, pour qu'on voit ce que Ésaïe va sentir. Alors, l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et on découvre qu'il y a un remède, hein, il y a une réponse au cri de détresse d'Ésaïe. Le Seigneur apporte sa réponse à travers l'action de ce séraphin. L'un des séraphins vola vers moi et tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel. Ce n'est pas n'importe quelle braise qui peut réaliser la purification dont Ésaïe a besoin. Celle-ci est prise sur l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le lieu de sacrifice où, à son époque, une bête a été offerte comme substitut pour expier le péché du peuple. Le remède ne peut venir que du moyen d'expiation que Dieu a mis en place lui-même pour nous. Et c'est un remède qui arrive sous forme douloureuse. Je ne sais pas si vous avez assez d'imagination pour vous mettre à la place d'Ésaïe quand cette braise incandescente touche sa bouche. Vous savez que les lèvres sont une des parties les plus sensibles du corps humain. Bien sûr, c'est une vision, mais je frémis rien qu'à imaginer cette braise qui s'approche. Pourtant, le plus important, c'est pas dans la douleur éventuelle que ça aurait causé. Le texte n'en parle pas. C'est dans le sens de ce geste. Et là, Ésaïe reçoit une explication claire et nette de ce qui s'est passé. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ici, il y a quelque chose d'important, et si vous ne retenez rien d'autre, il faut retenir ceci. Le bénéfice du sacrifice sur l'autel a été appliqué là où le prophète en avait besoin. Le bénéfice du sacrifice sur l'autel a été appliqué là où le prophète en avait besoin. Et cette expiation va donc le décharger de son fardeau de culpabilité. Ça va effacer l'offense de ses actes, de ses pensées, de ses paroles impures. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 10, nous affirme « Nous avons un autel ». Alors, je regarde autour de moi ce matin, il est où l'autel? L'Épître aux Hébreux va nous le dire. Hein. « Nous avons un lieu » où notre substitut a été offert. On en a parlé en prenant le repas, bien sûr, ce matin. Nous avons un lieu où quelqu'un a été détruit à notre place. Et les versets qui suivent dans Hébreux 13 précisent qu'il s'agit de la croix dressée à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'est là que notre faute a été enlevée et notre péché a été couvert. Et ce qui m'a fait du bien dans ce texte d'Ésaïe 6, c'est que le Dieu qui nous révèle notre impureté profonde est aussi celui qui a pourvu à notre purification. C'est le même. C'est le Dieu trois fois saint qui a donné son Fils pour ma purification. Et ça, c'est beau. Alors, vous me direz, tout ça, on le connaît par cœur. Bien sûr, on le connaît par cœur. Mais il est tellement facile aussi, parfois, de devenir un peu blasé par rapport à ce que Dieu a fait à la croix. Et la question, donc, qui m'est venue, et je pense que nous pouvons nous la poser, c'est à quoi ressemblerait ma vie s'il n'y avait pas d'expiation? À quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui si Jésus n'avait pas donné la sienne sur cette croix. Et là, peut-être qu'on pourrait prendre chacun le temps plus tard d'y revenir hein, en méditant, parce que c'est quand même une question intéressante et qui nous permet aussi de mesurer de nouveau ce que nous devons à notre Sauveur. À cause de cette expiation, par la vie que Jésus a donnée, nous pouvons nous approcher pour adorer. Et nous approcher pour adorer, non pas épouvantés par la sainteté, mais rassurés dans la sainteté et dans la purification que Dieu nous donne. Mais il y a encore donc ce que Ésaïe entend, et on va relire à partir du verset 8. Voilà ce que nous lisons au verset 8. « Et j'entendis, j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va. » Et dit à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. Je demandais alors, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, que ce territoire soit réduit en désert et dévasté, l'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un dixième du peuple à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais, comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Ce qu'Ésaïe entend. Alors le message de Dieu pour son prophète peut sembler dans l'ensemble plutôt décourageant. Quand on lit ça, on se dit, mais quoi ? Quelle mission, hein ? Ésaïe entend d'abord l'appel du Seigneur, hein, son invitation. Il se porte volontaire. Alors ça, c'est beau aussi. Je suis prêt. Envoie-moi. Et le Seigneur cherche encore des volontaires. Aujourd'hui. Pour porter témoignage de lui dans le monde. Mais alors la suite, c'est un peu comme une douche froide. Alors, avant de reparler donc du cœur de ce message que le Seigneur fait entendre à Ésaïe, je reprends la fin. Il faut lire quand même avec en tête le fait qu'une souche subsistera. Et toujours, il y a eu un reste fidèle. Donc finalement, on pourrait dire ce qui précède décrit la majorité. Mais il y aura un reste fidèle qui sera quand même touché par les paroles d'Ésaïe et qui marchera avec son Dieu. Car le Seigneur ne permet pas l'éradication de son peuple. Et il a gardé ce reste jusqu'à la naissance de Jésus qui devait venir de ce peuple, hein, qui devait naître d'Israël. Et voilà, le Seigneur garde encore son peuple jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Néanmoins, c'est vrai qu'entre-temps, ce qu'on lit là, ce n'est pas vraiment à nos yeux une mission qui soulève l'enthousiasme. D'ailleurs, je me suis dit, si le Seigneur lui avait dit tout cela avant de dire qui ira pour nous, est-ce que la réponse d'Ésaïe aurait été aussi nette et encourageante? Mais bon, le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il a appelé, Ésaïe a répondu, et puis le Seigneur lui a expliqué ce qu'il attendait de lui. Si on reprend les versets 9 et 10, on pourrait parler du problème de la prédication. Le problème de la prédication. Le Seigneur lui dit, Ésaïe, je veux que tu prêches. Hein, c'est à ça qu'il est appelé. Mais, sache-le, la plupart de tes auditeurs ne t'écouteront pas. Bon. Pire encore, ta prédication les rendra sourds, insensibles et indifférents. Ils seront tellement fermés qu'ils ne pourront même plus réagir. Mais c'est là qu'il faut qu'on comprenne aussi que le Seigneur est en train de lui dire, et ce sera un jugement de ma part. C'est un jugement que Dieu a décidé, qui va aboutir, comme on le sait, à l'exil. Hein. C'est quelque chose qui a été déjà annoncé. Donc, il y aura un endurcissement. Alors, une petite parenthèse pour dire que la Bible dit à plusieurs fois que le Seigneur peut endurcir les cœurs. Mais les cœurs que Dieu endurcit, alors on pense au cœur de Pharaon, hein, c'est le grand exemple, mais bon, il y en a d'autres. Quand Dieu endurcit un cœur, ce cœur n'est pas neutre. Dieu n'endurcit que des cœurs corrompus, d'une part, mais aussi rebelles, et qui refusent de revenir à lui. Donc, c'est important aussi d'éclairer notre passage avec cet enseignement qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Donc, il y avait un problème avec la prédication et Ésaïe allait devoir vivre cela. Et puis, il y a les versets 11 à 13 qui mettent en avant quelque chose que j'ai décidé de résumer par la franchise de Dieu. Et dans la franchise de Dieu, il y a un encouragement, je crois, pour nous aussi, aujourd'hui. Alors, Ésaïe, il demande, mais jusqu'à quand? Et la réponse est donc que le jugement déjà annoncé va suivre son cours. Rien ne peut l'arrêter, le pays sera dévasté, le peuple sera emmené en exil. Mais il ne faut pas que nous passions à côté de la bonté de Dieu pour Ésaïe, ici. Et ça nous concerne aussi, parce qu'en gros, le Seigneur dit, tu n'auras pas beaucoup de succès, je te le dis d'avance, tu es averti. Ton service semblera même stérile, sans doute. Mais le Seigneur appelle Ésaïe à une mission difficile, mais il lui permet de l'aborder sans illusion. Et le Seigneur a parfois besoin de s'occuper de nos illusions. Ici, il s'occupe des illusions possibles d'Ésaïe. Mais le manque de réussite ne doit pas le décourager. Et le manque de réussite ne doit pas remettre en cause son ministère pour le Seigneur. Seulement, Ésaïe doit y aller sans se leurrer. Il doit faire ce que Dieu lui demande sans se leurrer. Mais par bonté, Dieu est honnête avec lui dès le départ. Hein, il lui dit tout. Et en même temps, donc, il peut faire confiance à son Seigneur parce que Dieu est honnête avec lui. Dieu ne lui cache pas la difficulté qu'il attend. Et cette franchise de Dieu est donc un encouragement à marcher quand même, hein, marcher dans la voie que Dieu nous trace. Et nous pouvons donc en tirer un encouragement pour nous. Vous savez, dans notre culture évangélique actuelle, parfois nous pouvons avoir l'impression que si nous avions assez de foi, si nous appliquions les principes bibliques dans nos relations, si nous inondons nos activités de prière, si nous formulons une bonne stratégie d'évangélisation, si nous avons une vision d'église bien définie, si encore nous fréquentons les bons blogs chrétiens, si nous écoutons les meilleurs prédicateurs sur Internet, et je pourrais continuer, si, tout cela, nous aurions forcément du succès. Eh bien, je ne crois pas que c'est vraiment ce que la parole nous dit. Et là, j'aimerais vous ramener aux paroles de Jésus. Alors, je ne vais pas lire tout ce que Jésus dit pour mettre ses disciples en garde, Mais je pense que le Seigneur ne serait pas d'accord avec l'idée que si seulement on faisait tout ce qu'il fallait, la réussite nous tomberait tout cuit dans les bras. Et je vous recommande, alors je ne vais pas lire tout ce texte, mais Jean 15. Et si vous avez le temps chez vous, vous lirez à partir du verset 18, je vais commencer par ça. Mais jusqu'à la fin du chapitre, c'est le Seigneur qui, avant de quitter ses disciples, leur dit combien ça va être difficile. Et ça commence par ces paroles. Jean 15, 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et puis il continue, hein, donc voilà, ça va jusqu'à la fin du chapitre, hein, jusqu'au verset 27. Mais ce que j'aimerais retenir, c'est le premier verset du chapitre 16. Donc, après avoir donné tous ces avertissements, le Seigneur dit, « Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. » Autrement dit, je vous ai dit la vérité. J'étais honnête avec vous, je suis franc avec vous, et il y aura bien des difficultés, des persécutions, de la haine, une opposition, mais je vous demande de servir les yeux ouverts, sans illusion, mais avec persévérance et avec foi. Et ça, c'est important, je pense, pour nous de le retenir, pour nous-mêmes. Servir les yeux ouverts, sans illusion, mais avec persévérance et foi. Le Seigneur ne nous a pas caché qu'il y aurait des difficultés, hein, qu'il y aurait des personnes qui essaieraient de nous mettre des bâtons dans les roues, mais il nous a promis sa présence, il nous a promis son soutien, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, et donc nous pouvons continuer à marcher dans la voie qu'il trace. Je conclue donc. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Le roi est mort, mais l'Éternel règne. C'est ça le message aussi qu'Ésaïe devait retenir de cette vision. D'accord, le roi est mort, mais l'Éternel règne. Il est toujours sur le trône, il était en 740 avant Jésus-Christ, mais il l'est encore aujourd'hui, pour nous. Alors nous vivons devant lui un peu comme Ésaïe, comme des pécheurs, graciés. Et ça, c'est important. Graciés et pourtant, si j'en crois Hébreux 12, verset 1, chaque jour, nous vivons aussi aux prises avec le péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, hein. Vous pouvez relire ce premier verset d'Hébreu 12, qui reconnaît que nous sommes dans une bataille, dans un combat spirituel pour marcher dans les voies de Dieu et pour repousser le mal qui veut nous envahir et recevoir ce qui vient de la croix, cette purification jour après jour qui nous permet de marcher avec Dieu. L'Éternel est le Dieu saint qui peut effectivement nous laisser abasourdis devant la grandeur de sa sainteté et la beauté de sa gloire. Si sa sainteté peut être d'un certain côté alarmante, hein, comme ça a été le cas pour Ésaïe, nous n'oublions pas qu'il est aussi le Dieu saint qui pourvoit à l'expiation de nos fautes. Et ce Dieu saint est franc et honnête avec nous quand il dit encore aujourd'hui « Qui enverrai-je ? » Qui enverrai-je ? Il nous appelle à le servir dans notre faiblesse, donc avec humilité. C'est parce qu'on sait ce qu'on est et qui on est qu'on peut servir dans l'humilité, qu'on ne va pas se prendre la grosse tête parce qu'on sert le Dieu de l'univers. On reste humble devant lui dans ce service qu'il nous demande quand même, parce que c'est ça aussi. Le Seigneur nous demande de servir quand même. Qu'allons-nous répondre à son appel? Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, C'est aussi un peu en tremblant que nous rentrons dans cette vision avec Ésaïe que nous nous rendons compte de combien tu es grand, de combien tu es beau et surtout de combien tu es saint. Et Seigneur, c'est vrai que cette sainteté pourrait nous faire peur. Cette sainteté nous fait sentir combien nous sommes petits et souillés. Mais Seigneur, tu viens aussi, comme pour Ésaïe, nous dire « Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et là, ce n'est pas par le sacrifice d'un animal sur l'autel du temple, mais par la vie du Fils de Dieu donnée sur la croix, pour nous, pour chacun de nous. Et cette expiation est encore tout à fait aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 2000 ans pour les tout premiers disciples de Jésus. Et pour cela aussi, nous te rendons grâce ce matin. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Merci, Seigneur, pour cette expiation. Merci aussi pour ton appel que tu daignes utiliser des êtres comme nous pour être tes témoins dans ce monde qui si souvent aussi fait la sourde oreille comme les contemporains d'Ésaïe. Seigneur, garde-nous de nous décourager, car il y a encore des hommes et des femmes autour de nous que tu veux appeler à toi, à qui tu veux faire découvrir ce que tu nous as fait découvrir, la vie éternelle par Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour ta grâce qui nous permet de te connaître, de te fréquenter et de te louer malgré les pécheurs que nous sommes. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions et nous demandons surtout encore, comme Ésaïe, ton aide, ton intervention, jour après jour, pour nous tenir, pour nous garder, pour nous fortifier. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen.